Ce lundi après-midi, je suis face au plateau du théâtre transversal. J'ai en face de moi les divins quincaillers.
Bonjour.
C'est-à-dire Vanessa Clément et Thierry Hett. Samedi prochain, on va découvrir une création de l'effet Goldberg de la compagnie Divine Quincaillerie. L'effet Goldberg, est-ce qu'on peut définir cet effet par la question pourquoi faire simple lorsqu'on peut faire compliqué ?
Ah oui, ouais, ouais, tout à fait, c'est exactement ça. C'est comment passer par un chemin complètement tordu, alors que finalement, avec nos deux mains, on peut faire les choses aussi simplement que ça. Oui, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Mais avec, en plus, l'idée que plus on fait compliqué, plus on veut faire compliqué.
Elle est née comment, l'idée de l'effet Goldberg, le spectacle ?
Pour être très honnête, elle est vraiment née de la forme, c'est-à-dire d'une passion pour ces dispositifs de machinerie low-tech. On avait vraiment envie de travailler à partir de ça. C'était vraiment le point de départ, la motivation première. Après, pour faire théâtre à partir de ce type de machine, on a quand même déterminé un propos qui est illustré par cette accumulation d'objets, cette complexité inutile. Donc c'est vraiment la machinerie, le point de départ, mais on est quand même des gens de théâtre, donc on a dramaturgisé cette machine pour en faire spectacle.
Donc à la base du spectacle, il y a l'accumulation. J'ai envie de dire aussi qu'il y a la récupération. Alors l'accumulation a plutôt mauvaise presse, alors que la récupération a plutôt une bonne réputation, je trouve.
Oui, et en fait, c'est le paradoxe de la société dans laquelle on est. Les discours... aujourd'hui, on est face à un gros défi écologique, on le sait, tout le monde est au courant, c'est bon maintenant. Mais tous les discours sont encore très contradictoire. On se mélange les pinceaux entre le recyclage, la récupération, accumulation, consommation, croissance, sobriété, décroissance, on mélange tout. Et ce spectacle montre un peu ce mélange-là. Oui, on récupère des objets, mais on en fait le même usage que quand on ne les récupérait pas. Donc, est-ce que si bien que ça ?
Les machines que vous nous proposez sur le plateau, est-ce qu'au départ, elles ont été planifiées ? C'est-à-dire qu'il y a eu un plan, une réflexion, des calculs sur le poids, l'inertie, les inclinaisons ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une sorte de fabrication au plateau, comme on dit, écriture au plateau ? C'est-à-dire qu'on tente des trucs et on voit si ça marche.
C'est un peu des deux. Il y a une partie effectivement théorique, où moi je me suis même penché sur des vieux traités de la Grèce antique sur les machines simples, les mécanismes à l'œuvre dans la plupart des mouvements qu'on connaît dans nos machines d'aujourd'hui. Donc la poulie, le contrepoids, le pan incliné, tout ça c'est des trucs déterminés par les Grecs. Alors je me suis un peu passionné pour ça, j'ai un peu creusé la théorie, dessiné des choses, et puis après il faut faire aussi avec les objets qui nous tombent sous la main. Donc on a beau théoriser la chose, parfois c'est les objets eux-mêmes qui, en se cassant la figure, nous disent « Ah bah oui, c'est comme ça que ça marche, quoi ».
Est-ce qu'on peut dire que vous pratiquez la poésie de l'usager, d'une certaine manière, de l'user ?
Oui, on aime la poésie du quotidien, des choses simples, banales. Les vieux objets racontent des histoires, on n'a pas besoin de faire un énorme texte autour d'un vieil objet. On a tous fait l'expérience en allant chez quelqu'un qui a un vieil objet qu'on ne connaît pas, des fois même on ne sait même pas à quoi ça sert. Mais il nous raconte quelque chose de poétique, d'un autre temps, et c'est l'accumulation de ces objets d'avant. On va dire ça comme ça, d'un avant, mais d'un avant d'il n'y a pas longtemps aussi. Hein. On a une télé là sur scène, par exemple, donc c'est pas si vieux que ça. Mais ces objets-là, oui, ils nous racontent l'histoire d'avant, quoi. Et on en fait l'histoire d'après.
Justement, est-ce que vous racontez quelque chose ? J'en ai vu une bribe du spectacle, où c'est une sorte d'effet de virtuosité, d'une certaine manière, où tout s'enclenche à merveille. Ça a duré quelques minutes, alors que là, bon, il faut quand même tenir au moins une heure, je pense.
Alors, pour répondre à la première question, non, ça ne raconte pas d'histoire, dans le sens où il n'y a pas de narration. C'est la machine elle-même, avec son montage, son déclenchement, son fonctionnement, sa relance, son augmentation, son refonctionnement, qui raconte elle-même une histoire en fonctionnant. Après, comme on parlait des objets, les objets mis en jeu, ils ont une histoire, ils évoquent quelque chose. Cette machine qui grossit, qui grossit, qui grossit, qui fonctionne, puis qui dysfonctionne, elle est là l'histoire. La narration, elle est générée par la mise en œuvre de cet objet-machine. Et c'est là qu'on joue entre la mécanique et le théâtre, mais sans raconter véritablement quoi que ce soit. On laisse au spectateur le soin de se faire son avis à partir des évocations que nous, on propose avec ce dispositif.
Alors, il y a une mécanique, mais il y a aussi tout un environnement. Il y a de la musique, par exemple. C'est-à-dire que vos machines, elles ont un certain rythme, finalement.
Oui, alors, c'est l'idée de fabriquer un univers. Et un univers, il est visuel, il est sonore, il est lumineux aussi. Donc, on a travaillé dans le noir pour n'éclairer que certaines parties, parce que le noir apporte du mystère. Donc, tous ces objets ont une mise en valeur spéciale dans le noir. On a travaillé sur l'accumulation de sons et de musique. Parce qu'on accumule des objets, mais on accumule aussi du son. On parle de société très bruyante. Donc là aussi, on a une machine bruyante, et avec de la musique, et avec ses propres sons.
Alors, ce qu'il y a de nouveau par rapport à ce que j'ai vu cet automne, c'est qu'il y a de la vidéo. Donc, c'est vraiment un spectacle moderne.
Ouais, de la vidéo en VHS sur un téléviseur cathodique de marque Panasonic, si je ne me trompe pas.
Téléviseur cathodique.
Ah oui, on en reste quand même. Hitachi, oh là là, on est international. Oui. Même là, on a ce goût pour le low-tech. Moi, je préfère effectivement la VHS plutôt que le mapping impeccable.
Divine Quincaillerie, c'est une compagnie qui, mine de rien, va dépasser les 20 ans maintenant. Hein. Jusqu'à présent, vous étiez plutôt en plein air. Et puis là, vous vous retrouvez dans une boîte noire. Qu'est-ce qui vous a incité à hiberner ou à vous enfermer d'une certaine manière?
L'âge, ça fait 20 ans. Alors, la rue, ça va très bien pour les jeunes. Mais alors, quand on commence à avoir mal au dos. Non, il y a ça et le fait que, fort de notre expérience de rue, on peut réinterroger la salle. C'est-à-dire ne pas se mettre en face de notre public juste parce que, dans une salle, le public est en face de la scène. Mais parce que, comme on a interrogé notre place dans la rue tout le temps pendant 20 ans, on sait que maintenant, quand on arrive sur un plateau, on peut réinterroger aussi cette place au plateau et avoir un rapport au public assez différent de comédiens qui seraient toujours restés dans la salle et qui, par habitude, font ce qu'ils se font en salle.
Dans la rue, il faut capter le public tout de suite. Enfin, il faut qu'il s'arrête par moment, puisque souvent on marche. Cette pratique que vous avez de la rue et du public de rue, comment vous l'adaptez justement à l'intérieur? Le public est beaucoup plus captif. Hein.
Oui, c'est la principale différence. C'est que le public, une fois qu'il est enfermé dans la salle de théâtre, il y a assez peu de chances qu'il se sauve. Donc il n'a que le spectacle à regarder. Dans la rue, même si de plus en plus les spectacles de rue sont des spectacles convoqués aussi, il ne faut pas se leurrer, le public peut toujours se lever au bout de 3 minutes et s'en aller si ce qu'il a sous les yeux ne lui convient pas. Mais c'est notre pratique dans l'écriture des choses. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette habitude, on commence à l'avoir, mais on n'a pas au départ cette habitude de théâtre avec des codes de théâtre trop lourds. Et même là, dans la salle, on travaille avec un peu de la même manière que si on était dans la rue. Tout à vue, il n'y a pas de technique, il n'y a pas d'effet théâtral, il n'y a pas de coulisses, rien n'est caché. C'est en ça que notre pratique de la rue, elle se retrouve là. Et puis on aimerait bien y retourner rapidement dans la rue avec cet effet Goldberg. Parce que dès le départ, on s'est dit, cette proposition-là, à partir de machinerie, elle aurait quand même bien sa place à d'autres échelles, dans d'autres espaces. Donc ça, c'est le programme pour la suite.
Alors les machines que vous présentez sur scène, il y a un côté bricolo, mais en même temps, c'est beau. Il y a quand même un aspect esthétique dans ce que vous faites, même si il y a des escabeaux, des roues de vélo, une raquette, un vélo désossé.
Oui. Nous, on a un passé de marionnettiste. Et les objets et de théâtre d'objets, en fait. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Pour nous, les objets racontent une histoire et donc le vieux doit être mis en valeur. Donc, on réfléchit à la coexistence des objets. Il ne suffit pas juste de sortir les objets de notre poubelle. Il faut aussi les mettre les uns à côté des autres et se dire, ces deux-là, ils communiquent. On ne sait pas par quelle opération du Saint-Esprit ils communiquent, mais ces deux-là, oui, ils communiquent. Et quand on en met un troisième, ça ne marche plus. Donc, celui-là, il ne faut pas le mettre. Et on réfléchit nos objets comme on réfléchit à la mise en place de personnages. C'est pour ça qu'au final, notre bric-à-brac, quand on le met dans le camion, on dirait qu'on va à la déchetterie. Et quand on le monte sur scène, ça fait une jolie machine. Voilà.
C'est un peu comme une recette de cuisine, en fait. Dans le choix des objets qu'on utilise, alors d'une part, il y a leur fonctionnalité. Une roue de vélo, ça tourne, un contrepoids, ça tombe. Mais on essaie de doser comme on dose les épices en cuisine. C'est-à-dire que si on met un objet chiné en brocante, en vieux bois vermoulu, on va le mettre en dialogue avec du vieux high-tech comme cette vieille télé. Ou si on trouve un truc, un objet qui est plus pop, coloré, on va le mettre en dialogue avec une vieille bassine en fer blanc. Voilà. C'est peut-être ça qui rend l'ensemble étrange et peut-être avec un intérêt esthétique, en plus d'un intérêt mécanique.
Par rapport à ma première question où on parlait de surconsommation et de récupération, est-ce que finalement, dans ce spectacle, vous parlez de choses très actuelles, très cruciales, très fortes, mais d'une manière plutôt douce?
Nous, c'est une question qui nous préoccupe depuis de très nombreuses années. J'ai toujours voulu faire un spectacle qui parlait de ce sujet-là, de l'environnement, de notre être dans ce monde-là, qui est en train de... Le jour du dépassement, il est de plus en plus tôt, enfin, c'est quand même catastrophique. Mais je ne voulais pas culpabiliser les gens, parce que quand on fait culpabiliser les gens, ils se raidissent, en fait, ils se positionnent en contre. Ils se défendent, ils se mettent sur la défensive, et du coup, ils n'écoutent plus. Donc, j'ai attendu longtemps, et quand on a commencé à travailler sur ces machines, je me suis dit que c'était la bonne occasion de parler de ça, sans culpabiliser. C'est juste que ça existe, et qu'on met le doigt sur une sorte d'incohérence de notre monde. Bon, et alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette incohérence-là? Et de le faire de façon douce pour que les personnes entendent, et non pas se mettent à dire « oui, c'est toujours la même chose », etc., etc., enfin, tout ce qu'on entend... quand on est en contre par rapport au discours écologique. Voilà.
Pour terminer, une question qui me turlupine depuis cet automne. Est-ce que vous avez trouvé une fonction à l'aspirateur?
Oui.
Oui.
Ça y est, il a sa place. C'est vrai qu'on avait, sur la sortie de résidence du mois de novembre, on avait un aspirateur qui attendait de trouver sa place.
Un comédien sur la bande.
C'est ça. On était certains qu'il la trouverait et ça y est, il l'a trouvé dans la version finale. Il a enfin une place de choix, qui plus est.
Ben, samedi.
Eh bien oui, à samedi.